So we are coming to the last part of this symposium, and we'll come back to reminiscences about Anatole. And there will be a small change to the program, and I will ask Jean-Claude Péquer to say a few words. In fact, when I looked at who, there was a kind of competition, who had known Anatole Abraham for the longest time, and I think that the winner is Jean-Claude Péquer, as he will explain to you in a moment. So, yes. Jean-Claude Péquer va parler en français. Il a été professeur au Collège de France
de 1963 à il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas très longtemps.
Non.
Et donc, il a très bien, c'est la personne qui a connu le plus longtemps Anatole Abraham comme professeur au Collège de France et beaucoup plus longtemps avant, comme il va nous le dire
comme
lui-même.
Comme étudiant. Alors, je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous les physiciens que j'ai entendus tout à l'heure. Toute ma vie a été consacrée à un atome extrêmement simple, l'hydrogène. Et je n'ai jamais beaucoup étudié des atomes ou des molécules beaucoup plus complexes. Donc, je parlerai d'Abraham et pas de science. Les souvenirs, ça remonte très loin. 1942, Grenoble, au cœur des Alpes. Et 1942, c'était une période difficile où, à ce moment-là, les cours de physique et de mathématiques se donnaient à l'Institut Fourier, à Grenoble. René Fortras était le physicien. René Gosse, le doyen René Gosse, qui après a été assassiné par la milice française, faisait les cours de mathématiques. Et Marcel Brelot, qui était l'intrépide bourbakiste de l'époque, nous enseignait le bourbakisme. Donc nous étions là, une cinquantaine, une soixantaine d'étudiants, disons des jeunes gens, dont une grande partie venait de Paris, pour des raisons évidentes. C'était des gens qui s'étaient réfugiés à Grenoble. Il y avait là, dans trois ou quatre normaliens, à qui le maréchal n'avait pas voulu laisser la possibilité d'étudier Ulm. Et puis, il y avait de temps en temps d'autres personnages, notamment un monsieur qui venait, qui était un homme, nous étions des jeunes gens, lui était un homme jeune, qui venait suivre les cours de mathématiques principalement, mais qui de toute évidence en savait beaucoup plus que nous. Il avait une drôle de casquette sur la tête, on l'appelait l'homme à la casquette norvégienne. Je ne l'ai jamais appelé autrement pendant cette période-là parce qu'on ne savait pas son nom. D'ailleurs, il le cachait soigneusement. Et bon, j'ai sympathisé avec ce garçon-là. Nous avons échangé beaucoup de choses. Il m'a fait lire l'ancienne et la nouvelle physique des quantas de Gene Bloch. Je lui ai fait lire le livre sur la mécanique quantique de Gaston Julia. Et nous en discutions. Lui n'aimait pas beaucoup Julia parce que c'était un peu trop mathématique pour lui. Dans son esprit, l'expérience passait avant le reste. Et on retrouve un peu cette pensée dans le débat qu'il a eu beaucoup plus tard avec René Thom, où René Thom défendait la mathématisation de la pensée, alors que Abraham se référait... Ah, j'ai dit que c'était Abraham, je ne l'avais pas dit avant. Où Abraham se référait essentiellement à l'expérience et au monde réel. Bien, donc nous avons sympathisé, et puis le temps a passé, la guerre prenait un tour très désagréable. Abraham est parti avec les FTP, quelque part dans le maquis. Moi, je suis retourné sur Paris, où j'ai été à la fois tourneur et saboteur. C'était une période difficile. On s'est complètement perdu de vue à ce moment-là. Et puis nous nous sommes retrouvés plus tard, curieusement. Curieusement, je suis obligé de faire une petite parenthèse ici, parce qu'Abraham n'a pas été concerné tout de suite. Je ne savais même plus comment il s'appelait, cet homme à la casquette norvégienne. Et puis j'ai passé 6 mois de mon existence à Copenhague, dans la pension Haase, qui était la pension où étaient hébergés également les gens qui allaient chez Niels Bohr. Moi, j'allais chez Stromgren, le directeur de l'observatoire, et Niels Bohr, bien sûr, le physicien qui attirait énormément d'élèves chez lui, et Claude Bloch, que certains d'entre vous ont connu. Claude Bloch était en même temps que moi à la pension Hase. Lui, il était chez Bohr, moi j'étais chez Strandgren, mais nous avons très vite sympathisé et on a déambulé sur le Nuhaun à Amsterdam et un peu partout. On cherchait des fish markets, c'est-à-dire le marché aux poissons. Le poisson d'Amsterdam était excellent. Et mon Dieu, nous avons parlé de physique. Et j'ai appris énormément de choses. Il m'a convaincu à ce moment-là que les moments nucléaires, c'était une chose intéressante. Et j'ai fait mon second sujet de thèse, la nécessité dont tout à l'heure on nous a évoqué l'existence autrefois, le second sujet de thèse. Et mon second sujet de thèse, c'était les moments nucléaires. Alors, j'ai donc cette sympathie avec Claude Bloch a fait que lorsque Claude Bloch est revenu à Paris, et moi aussi, je suis allé voir Claude Bloch où il était, c'est-à-dire au CEA, le CEA de 1948-49 par là. C'est-à-dire le CEA qui était installé à Fontenay-aux-Roses, dans ce qui s'appelle le fort de Châtillon. Et là, il y avait une poignée de physiciens, et tous qui travaillaient avec Claude, et de physiciens de grande classe. Et j'ai donc sympathisé avec ces physiciens, ils étaient quatre. Il y avait Claude Bloch, évidemment, Jules Horowitz, Michel Trocheris, et Anatole Abraham, ça fait quatre. On les appelait pour ça les trois mousquetaires. Et donc nous avons tous sympathisé, ils sont devenus des amis, j'ai longtemps gardé de très bonnes relations avec tous. Et dans la foulée de cette relation, nous sommes allés au colloque, je pense ce colloque symposium qui a eu lieu à Amsterdam en 1950. Je crois que ce colloque d'Amsterdam 1950 a été une étape clé dans le développement de la physique de l'époque. Je pense que c'est à cela que vous faisiez allusion, mon cher confrère, lorsque vous parliez d'Abraham ayant découvert la physique nucléaire, les moments nucléaires, en 1950. Je pense que c'est à l'occasion de ce congrès. Moi, j'y allais simplement pour parfaire la seconde thèse dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, que m'avait suggéré Claude Bloch, et Abraham y était aussi, bien entendu. Et là, je dois dire que j'en ai gardé un souvenir, le souvenir d'un jeune chercheur, d'un blanc-bec illuminé par tout ce qu'il voyait, par tous les grands noms qui l'entouraient, depuis Purcell, Ramsay, Townes et quelques autres. Et j'ai appris beaucoup de choses de Polycarpe Couch. Polycarpe Couch travaillait sur la résonance magnétique du césium. Et les pendules à césium ont ensuite fait florès pour la définition du temps atomique. Le temps atomique qui s'appelle en français TA, mais internationalement TA, parce qu'il a été nommé ainsi par Bernard Guinot, astronome à l'Observatoire de Paris, qui avait travaillé sur ces pendules à césium à l'époque. Donc nous revoilà redevenus amis avec Anatole. On se voyait, on échangeait des tas d'idées sur la physique moderne, sur l'organisation de l'université et du CEA. Je ne sais pas pourquoi je me suis trouvé conseiller du CEA à cette période-là, sans d'ailleurs avoir jamais conseillé le CEA en fait, mais enfin bon, c'était amusant. Et nous sommes restés donc en très bon terme pendant toute cette période avec Anatole, jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés tous les deux à 3 ans de distance, professeur au Collège de France. Et bien entendu, les relations se sont renouées. Avant mon élection d'ailleurs, alors que Anatole était déjà professeur, j'ai souvent dîné chez lui. Il n'a pas fait campagne pour moi parce qu'à ce moment-là, il y a eu une compétition entre la physique et l'astronomie. Bon. J'ai quand même été élu, malgré lui. Je suis redevenu très ami avec Anatole dans une période qui fut une période vraiment très excitante pour lui, pour lui comme pour moi. Voilà à peu près les vieux souvenirs d'autrefois, des souvenirs qui me sont très chers. Anatole était un homme pour qui j'avais une très grande admiration. Parfois, il était difficile à vivre dans la mesure où il était parfois cassant. Je veux dire que son ironie était parfois un peu gênée, Mais enfin, elle était toujours positive et constructive, et je crois que c'est ce caractère constructif et souriant à la fois d'Anatole dont je garderai un très bon et très grand souvenir. Merci.